Bonsoir. Restriction d'eau dans 82 départements. Les trois quarts des nappes phréatiques qui sont à un niveau plus bas qu'à la normale. Pas de doute, la sécheresse est là. Sécheresse inédite depuis 30 ans, selon Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a présenté un plan pour une meilleure gestion de la ressource en eau en période de sécheresse. C'était ce matin. Que faire face au manque de pluie l'hiver? Les agriculteurs sont-ils responsables? Va-t-on vers des pénuries d'eau potable?
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Réagissez, témoignez, posez vos questions par mail sur franceinter.fr avec le mot-clé Telson sur les réseaux sociaux et bien sûr au 01 45 24 7000 et nous accueillons Jacques. Bonsoir Jacques, nous vous écoutons.
Bonsoir à vous.
Nous vous écoutons Jacques.
Allô ?
Allô Jacques, nous vous écoutons, allez-y.
Alors simplement ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, le problème de l'eau, ça n'est pas en France qu'il est le plus important, c'est dans le monde. C'est-à-dire il y a 1,4 milliard de personnes à travers le monde qui ne disposent pas d'eau saine et plus de 15 millions d'êtres humains en meurent chaque année. Hein, ça, c'est, il faut que ça soit clair.
Oui, Jacques.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que 70% de l'eau mondiale est utilisée par les agriculteurs et ensuite 20% par l'industrie et les ménages 10%. Hein? Donc en fait, la quantité d'eau douce disponible ne représente que 0,5% de toute l'eau présente sur la Terre. Voilà, c'est ça. C'est des données fondamentales. C'était déjà un problème le siècle dernier. C'était quelque chose qui avait été abordé. Et en plus, si vous essayez de vous remémorer la campagne présidentielle, personne n'en a parlé à aucun moment. Parce que je pense que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, ce qu'on...
On a quelques petits problèmes avec quelques coupures de téléphone, Jacques, sur la ligne. Pardon, on va un peu synthétiser et revenir sur les chiffres que vous donnez. Plan sécheresse, comment améliorer notre gestion de l'eau? Pour vous répondre ce soir autour de la table du téléphone sonne, Florence Abetz, hydrométéorologue, directrice de recherche au CNRS, présidente du conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie. Bonsoir. Marie-Lys Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau,
bonsoir.
CIO, EAU, bonsoir. Et Arnaud Goffier, responsable du programme Agriculture durable, politique agricole au WWF France, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que déjà les chiffres de Jacques, l'agriculture utilise 70% des ressources, 20% pour l'industrie et le reste pour les ménages, Marie-Lys Massé?
Alors je crois qu'effectivement l'agriculture mondiale c'est 70% hein, d'utilisation, de prélèvement, à ne pas confondre d'ailleurs avec les consommations. Prélèvement on prend dans la ressource, consommation c'est vraiment la part qui ne peut pas être réutilisée rapidement et directement. Qui s'évapore, par exemple. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'eau du robinet, c'est à peu près une 24% hein, des besoins. On peut revenir sur ces chiffres en France. Il y a 187 milliards de mètres cubes de précipitations qui vont aller vers les cours d'eau. Hein, et il y a plus, hein, il y a 300 et quelques milliards, mais il y a une partie qui va en évaporation, donc on n'en parle pas trop. Il y a 30 milliards de mètres cubes par an qui vont servir à tous les prélèvements. Dans ces prélèvements, en fait, là où on prélève le plus, c'est déjà pour alimenter nos canaux, hein, on prélève sur les cours d'eau, et puis également, on prélève beaucoup pour refroidir les centrales nucléaires ou alors aussi les barrages hydrauliques.
Ce sont les 20% pour l'industrie dont parlait Jacques.
Une partie, puisqu'il y a 6% aussi pour les autres industries. Et puis enfin, on peut dire que pour l'eau potable, eh bien, on va prendre un peu plus de 5 milliards de mètres cubes par an. Et dans ces 5 milliards, eh bien, on va avoir à peu près 950 millions de mètres cubes qui vont retourner à la nature directement, même si elles ont été captées et puis traitées en raison des fuites dont on pourra parler plus tard.
Alors aujourd'hui, on l'a encore entendu il y a quelques instants dans la météo, il pleut, il y a eu de la pluie aujourd'hui, il y en aura sans doute demain sur une majorité du pays. On est en été, on parle en même temps de sécheresse. Florence Abetz, vous êtes hydrométéorologue au CNRS. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura un impact sur la sécheresse, un impact positif, toutes ces pluies qui tombent en ce moment?
Ah bah effectivement, toutes les pluies qui tombent en ce moment vont aider à maintenir les besoins en eau des plantes. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin d'arroser, par exemple, typiquement pour que ça pousse. Par contre, ça ne va pas suffire pour alimenter les rivières ou les nappes. Les rivières ne vont pas être alimentées par ruissellement. Et pour les nappes, il faut vraiment que l'humidité des sols soit beaucoup plus importante pour qu'il y ait une contribution à la recharge des nappes. Donc là, les pluies vont servir simplement à arroser les plantes, mais c'est déjà beaucoup, ça va aider à faire en sorte que les plantes croissent.
Quand on dit sécheresse en été, c'est forcément la faute au manque de pluie en hiver?
Alors ça peut être une combinaison à la fois des déficits de précipitations, mais ça peut être aussi une augmentation de l'évapotranspiration, de l'évaporation des plantes, du fait par exemple d'une chaleur un petit peu excessive. Et là c'est vrai qu'on a eu quand même une période assez chaude au printemps et en début d'été, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'évaporation et du coup les stocks d'eau ont été très... amputé.
01 45 24 7000, pardon, c'est le numéro de téléphone du téléphone Sonne. Et avec nous, Benoît Biteau, bonsoir.
Oui, bonsoir Noé.
Nous vous écoutons.
Alors, les chiffres qui ont été donnés donnent effectivement des éléments de valeur, mais moi j'aime bien aussi rappeler le cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur cette ressource en eau régie par une loi qui s'appelle la loi sur l'eau, qui est la déclinaison de la directive cadre européenne sur l'eau, et qui précise, article 1, que l'eau est un bien commun, donc c'est un bien à partager entre tous les citoyens, et c'est pas le cas aujourd'hui quand on regarde les chiffres qui viennent d'être donnés. Et le deuxième article de la loi sur l'eau prévoit de hiérarchiser les usages de l'eau. Et la priorité 1, c'est l'eau potable, ça a été redit, mais il s'avère que globalement, elle peut être mise en difficulté par rapport au prélèvement des industries, de l'agriculture, par exemple. La deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques, et ça c'est très très important, parce que ces milieux aquatiques sont à l'interface entre la terre et la mer, j'ai envie de dire, et on néglige trop souvent, quand on parle de l'eau, de la problématique de la mer et de la problématique du lien terre-mer, et moi je suis agriculteur sur un secteur qui est le bassin ostréicole de Marennes-Oléron, et avec une gestion désastreuse de l'eau, on est en train de mettre en péril aujourd'hui une activité aussi authentique, aussi emblématique, aussi identitaire que l'huître de Marennes-Oléron. Et la troisième priorité que prévoit cette loi, c'est effectivement ce qu'on appelle l'eau économique, c'est-à-dire celle qui peut être utilisée une fois qu'on a satisfait les deux premières priorités qui permettent donc de satisfaire les besoins en irrigation, les besoins industriels, de refroidissement des centrales. Enfin, tout ça a été très bien expliqué. Mais je pense que ce fondamental-là doit être reposé de manière à ce que, y compris quand on est ministre de l'agriculture ou de l'écologie, on remette les choses à l'endroit et que quand on se pose la question de l'eau, on soit à minima dans le respect de la loi sur l'eau.
Alors Benoît Biteau, je rappelle que vous êtes paysan agronome, vice-président de la région Poitou-Charentes, en charge de la ruralité. Arnaud Goffier, c'était avant, ancien, oui, ex. Arnaud Goffier, WWF France, une réaction sur justement cette gestion de l'eau par priorité.
Mais effectivement, c'est très très important ce que rappelle Benoît Biteau, c'est cette hiérarchisation des usages où on a la continuité écologique et le bon état écologique des cours d'eau qui vient finalement avant l'usage économique. Et c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier lorsqu'on parle d'irrigation.
Parce que ça n'est pas toujours vérifié en fait.
Parce que ça n'est pas toujours vérifié, parce qu'on a aussi beaucoup de dérogations, on a aussi énormément de dérogations aux arrêtés sécheresse, aux arrêtés de restriction de prélèvement d'eau.
Justement, ça veut dire quoi quand je commence l'émission en disant qu'il y a 82 départements qui ont des restrictions d'eau, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de l'eau dans certains cas, les particuliers, les professionnels? Alors, est-ce que tout le monde est sur le même plan?
Il y a différents niveaux de restrictions. Il y a des niveaux qui, tout d'abord, empêchent des usages, je dirais, récréatifs, de laver sa voiture, d'arroser son jardin, de remplir les piscines. Et ensuite,
c'est le premier niveau, voilà, qui concerne à peu près tout le monde. Donc.
Effectivement. Et quand on monte ensuite dans les niveaux de sécheresse, on arrive à des restrictions qui s'appliquent à beaucoup plus d'acteurs économiques, dont les agriculteurs, qui parfois ont des restrictions d'irrigation, qui n'ont plus le droit d'irriguer leurs champs. Et c'est souvent ces restrictions d'irrigation qui sont remises à mal et qui font l'objet de dérogations au niveau des départements, au niveau des bassins versants.
Benoît Biteau, quand vous entendez Nicolas Hulot qui fait une communication ce matin lors du Conseil des ministres et qui dit qu'il faut qu'on apprenne tous à mieux gérer l'eau, puisque dans son rapport, il engage tous les citoyens, les entreprises, les administrations à se lancer dans des démarches d'économie d'eau, mais également de développer une agriculture plus économe en eau, multi-performante, là je le cite, et puis également réaliser là où c'est possible des projets de stockage de l'eau. Est-ce que vous applaudissez ?
Non, j'applaudis pas complètement. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut concerter, qu'il faut être attentif, vigilant sur la ressource en eau. Et ça, c'est conforme à la loi sur l'eau. C'est un bien commun. Et donc, on doit être particulièrement attentif à sa bonne gestion. Le stockage de l'eau, faut quand même. On a l'impression, vu de loin, pour des gens qui la communication de Stéphane Travers entretient cette confusion d'ailleurs. On a l'impression que quand on parle de stockage de l'eau, on va faire des zones où on va collecter l'eau de pluie et cette eau de pluie qui tombe en hiver en quantité importante, c'est pas contestable, mais il faut se rappeler quand même que cette eau de pluie a des usages et tout à l'heure il a été question des prélèvements naturels par les plantes qui sont très très importants, y compris en hiver. On a l'impression que c'est l'eau de pluie qui tombe l'hiver qui va être stockée dans ces retenues de substitution. Sauf que nous, en Poitou-Charentes par exemple, il n'y a pas un seul projet de retenue de substitution qui est alimenté par de l'eau de pluie. C'est-à-dire que le principe des retenues de substitution consiste à prendre une parcelle de 10 hectares environ, donc déjà l'emprise c'est 10 hectares, donc 200 retenues de substitution c'est 2000 hectares de terres agricoles qui vont être consacrées au stockage de l'eau. Ça consiste à faire un trou de 7 à 8 mètres de profondeur, d'y monter autour de ce trou une digue de 7 à 8 mètres de haut et de tendre une bâche au fond, et c'est là où il faut que vous vous accrochiez et c'est là où il faut faire de la sensibilisation auprès des citoyens, parce qu'on va y venir après. C'est financé par de l'argent public, on remplit ces trous d'eau avec des forages. Je répète, on remplit ces trous d'eau avec des forages.
Donc la nappe phréatique.
Et ces équipements-là sont financés par 70% d'argent public pour continuer d'entretenir une logique inverse à la loi sur l'eau, c'est-à-dire qu'il va continuer de faire que les agriculteurs sont les gros consommateurs d'eau au détriment parfois d'une bonne gestion de la ressource en eau potable ou du bon état des milieux aquatiques.
Florence Abetz, hydrométéorologue au CNRS, il faut dénoncer ce genre de stockage de l'eau par forage, comme vient de nous le dire Benoît Biteau.
Disons que le dénoncer, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, c'est tout à fait vrai que les retenues de substitution ne sont une solution finalement que quand l'eau est abondante en hiver, et c'est pas forcément toujours le cas. D'ailleurs, cette année, il y a eu des restrictions d'usage de remplissage de ces bassines déjà au niveau de l'automne et de l'hiver. Donc voilà, elles n'ont pas pu se remplir, donc c'est pas forcément une solution. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Parce que,
mais il y a d'autres solutions que de forer, justement, alors, et de prendre dans la nappe phréatique.
Donc effectivement, il y a des endroits où on va plutôt prélever de l'eau de la rivière en hiver également pour remplir des retenues dites de substitution. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a de toute façon un impact sur le milieu, hein, mais que l'on peut considérer parfois comme négligeable, ça va dépendre. Il est clair que, en tout cas, ces retenues ont un impact qui va varier selon la pluviométrie de l'année. Et ce qu'on a pu voir dans des études, c'est que l'impact de ces retenues est beaucoup plus fort, beaucoup plus important lors des années sèches que lors des années humides, hein, ce qui va surprendre personne. Et c'est un problème important puisque il est clair qu'avec le changement climatique, nous allons aller vers un plus grand nombre d'années sèches avec des périodes de sécheresse qui vont être plus longues et sans doute plus intenses. Donc, il ne faut pas anticiper avec notre regard d'aujourd'hui l'impact de ces retenues, l'impact qu'elles auront demain.
Alors Florence Abetz, une question pour vous de Grégoire par mail. Dans des conditions normales, combien de temps met l'eau pluviale pour atteindre une nappe souterraine ?
Alors c'est une très bonne question, mais la réponse n'est pas unique. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que
il y ait une recharge... Mais c'est quoi, c'est en termes de semaines, de mois ?
En fait, ce qui se passe surtout, c'est que ça ne peut pas se produire toute l'année. L'eau va réussir à atteindre la nappe, surtout quand elle va pouvoir être assez abondante dans le sol pour qu'elle draine par gravité, c'est-à-dire qu'elle descende toute seule vers la nappe. Et ça, finalement, ça se passe que quand l'eau du sol est déjà assez importante, du coup, c'est rarement l'été. Ou alors, ça va se passer dans des lieux privilégiés où ça va rester humide, donc par exemple dans des zones humides. Et là, ça peut durer quelques heures, quelques jours, jusqu'à quelques semaines. Ça va vraiment dépendre des conditions locales.
Voilà pour le mail de Grégoire sur la page du téléphone sonne sur franceinter.fr. Il y a également le 01 45 24 7000. Bonsoir Laurence, quelle est votre question ?
Oui, bonsoir. Alors, une question particulière, c'est quand est-ce que le ministère de l'Agriculture va enfin s'arrêter de subventionner les cultures de maïs qui sont très très gourmandes en eau ? Et ce maïs n'étant pas pour nourrir des humains, mais pour nourrir du bétail, qui va ensuite nourrir des humains ou leur mettre un petit peu plus encore d'obésité, de maladies cardiovasculaires et autres. Et une autre question plus générale, quand est-ce que ce gouvernement va prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, va avoir la franchise de dire qu'il faut faire une transition écologique alimentaire pour que l'on aille vers une alimentation, moi je souhaiterais à 100% végétalienne, mais au moins à 90 ou 95%, parce que le maïs donc qui va nourrir le bétail est extrêmement consommateur en eau. Ensuite, le bétail, la volaille, tout ça va générer des pollutions qui vont se retrouver dans les sols et aussi dans les eaux. Et en plus de ça, le bétail qui produit du méthane est en plus mauvais pour le réchauffement climatique. Donc quand on parle écologie, que ce soit l'eau, le réchauffement climatique, la pollution des sols et des eaux, le problème c'est l'élevage. Donc quand est-ce que le gouvernement va arrêter de subventionner l'élevage et va dire aux gens qu'il faut arrêter de manger de la viande deux fois par jour et qu'on pourra en manger peut-être une fois ou deux fois par mois pour ceux qui y tiennent ?
Alors je me permets, Laurence, vous ne m'en voudrez pas, d'associer à votre question celle d'Anne-Sophie par mail. Pourquoi les autorités ne favorisent-elles pas la transition alimentaire végétale qui consomme nettement moins d'eau que la nourriture ? Carnet, Arnaud Gauffier de WWF.
Alors, c'est une bonne question. Au WWF, nous ne poussons pas pour que tout le monde soit végétarien ou végétalien. En revanche, manger moins de protéines animales, manger moins de produits animaux, que ce soit de la viande ou même du poisson, on a d'autres problèmes sur le poisson, mais on a aussi une surconsommation, c'est très important pour diminuer la pression sur l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'eau, on a évoqué les gaz à effet de serre, aussi la déforestation.
Mais il y a un rapport avec l'eau, la consommation d'eau ?
Alors, il y a un rapport direct avec l'eau, puisque, comme l'auditrice l'a dit, une grande partie du maïs qui est cultivé et qui est irrigué dans le sud-ouest de la France est destinée à l'alimentation animale. Une partie aussi est destinée à l'alimentation humaine, il ne faut pas le perdre de vue, il faut quand même le garder en tête, nous en mangeons une partie directement. Et donc, manger moins de protéines animales, manger moins de produits animaux, ça peut participer à réduire cette dépendance. Les agriculteurs touchent des aides sur le maïs irrigué. De manière historique, c'est lié à la politique agricole commune, c'est lié à des aides que les agriculteurs touchaient déjà dans les années 90, donc c'est quelque chose qui est relativement ancien. Ce que nous attendons maintenant du ministère de l'Agriculture et notamment des discussions qui vont avoir lieu dans le cadre des états généraux de l'alimentation et de l'agriculture à l'automne, c'est vraiment d'engager cette transition, qu'elle soit alimentaire ou agroécologique, pour aussi définir la position de la France vis-à-vis de la réforme de la PAC. Ce sera l'occasion de définir la position de la France pour la modification de ces aides et la réorientation de ces aides.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et nous accueillons Noël. Bonsoir Noël.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue.
Voilà, oui. Alors ma question, elle rejoint un peu le débat qui s'est fait tout à l'heure avec la question sur l'alimentation, revoir notre consommation de viande. Ça, c'est très très utile et très important puisque ça fait à la fois appel à des animaux enfermés dans des conditions horrible d'une part, ça oblige à faire du maïs, à importer aussi du maïs d'autres endroits. Et surtout, notre modèle agricole est basé quand même, il faut le dire, sur l'exportation et le productivisme. Donc il faut vraiment revoir le modèle agricole, d'une part. Et ma question est donc, il faut à tout prix associer ce qui va y avoir lieu là, les jours sur l'alimentation, pour revoir et repositionner la problématique sécheresse et consommation de viande. Sinon, une autre problématique qu'on ne pose jamais, et qu'on pourrait arrêter et interdire, c'est les fermes et les élevages pour la fourrure. Que ce soit les fermes et les élevages pour la fourrure de visons qui vont s'étendre en France, notamment dans le Doubs à Imani, alors qu'on sait très bien que ces élevages de visons sont faits que pour la mode. C'est des animaux semi-aquatiques qui utilisent beaucoup d'eau. Les pollutions par ces déjections d'animaux sont très importantes. Et je ne comprends pas que la France ne fasse pas comme les autres pays une mesure et une loi interdisant, comme en Tchécoslovaquie récemment, comme en Belgique, toute production et toute ferme elle, pour la fourrure.
Alors on va vous répondre.
Et ça, c'est très très important.
On va vous répondre tout de suite, Noël, sur ces élevages pour la fourrure avec vous, Arnaud Goffier de WWF France. Et ensuite, on parlera du maïs qui était déjà dans la question de Laurence il y a quelques instants et qui semble tenir à cœur à nos auditeurs et même aux internautes qui nous envoient des mails.
Je pense que en tant que représentant du WWF, vous aurez compris que l'élevage pour la fourrure, c'est pas quelque chose qu'on cautionne, évidemment.
Ça consomme de l'eau, ça pollue.
Je ne pense pas que la problématique de la sécheresse soit vraiment liée aux élevages de fourrure. Il y a certes des pollutions qui sont locales. On peut avoir des pollutions liées à ces élevages. Mais les consommations d'eau peuvent être importantes au niveau local, mais ce n'est pas une problématique globale, je dirais, à l'échelle du territoire.
Sur le maïs, alors, est-ce que le maïs consomme beaucoup d'eau et du coup, c'est la faute des agriculteurs?
Alors, le maïs consomme beaucoup d'eau, mais consomme moins d'eau finalement que le blé. En totalité. Le problème du maïs, c'est que c'est une plante tropicale, c'est une plante équatoriale qui a besoin de chaleur et d'eau. Donc elle consomme l'eau au mauvais moment. Elle consomme l'eau au moment où il y en a le moins, en plein été, mois de juillet, août, pour sa croissance. Et c'est tout le problème du maïs. Après, tout n'est pas non plus la faute des agriculteurs. On parlait des aides à l'irrigation et au maïs. Les agriculteurs aussi, pour avoir un revenu, sont finalement un peu coincés dans ce système d'aides qui les pousse à cultiver les cultures les plus rentables. Vous savez que le revenu des agriculteurs actuellement est très très bas. On est à 350 euros par mois pour la moitié des agriculteurs en France. Donc tout n'est pas complètement la faute des agriculteurs. Il faut que ces états généraux de l'alimentation dont on parlait précédemment soient l'occasion de remettre ces questions-là sur la table, de comment on engage cette transition, comment on accompagne les agriculteurs à sortir de ces monocultures de maïs qui sont très gourmandes en eau et à aller vers des cultures qui soient beaucoup moins gourmandes en eau, beaucoup plus protectrice de la ressource en eau, vers l'agroécologie, vers des sols qui soient couverts toute l'année pour retenir un maximum d'eau et ne pas avoir des sols nus en plein été ou en plein automne, là où les nappes se rechargent. Voilà, vers des pratiques beaucoup plus agroécologiques.
Benoît Biteau, paysan agronome, les cultures de maïs sont responsables pour beaucoup de la sécheresse?
Bah, chez nous, c'est clair, sur la région Poitou-Charentes, qui est une des zones les plus touchées par la sécheresse et par la pénurie de ressources en eau, c'est clair que c'est le développement du maïs. Moi, je veux remettre les choses à l'endroit aussi. 75% du maïs irrigué en Nouvelle-Aquitaine, donc la nouvelle grande région, sont des productions dédiées à l'export. Et il faut arrêter de nous dire que la balance commerciale de l'agriculture nécessite ce genre d'exportation, puisque finalement, quand on essaie de décortiquer les 6 ou 7 milliards d'euros qu'apporte la balance commercial positif de l'agriculture, on se rend compte que c'est les produits de luxe qui apportent ces 6 ou 7 milliards d'euros. Quand je parle de produits de luxe, c'est cognac, champagne, Bordeaux, enfin voilà, ces productions-là. Et qu'en réalité, les exportations de céréales sont contrebalancées par les importations importantes de protéines qu'on ne produit pas chez nous, qui sont du soja par exemple, dans cette logique qui consiste à nourrir des herbivores, et là on y vient, on va revenir aux fondamentaux, qui consiste à nourrir des herbivores qu'on renferme 365 jours par an dans des bâtiments, qu'on nourrit avec du maïs qui est pauvre en protéines et qu'on doit compléter avec du soja. Donc effectivement, on produit du maïs qu'on va exporter, mais on crée un déficit de protéines qui nécessite une forte importation de protéines. Focalisons-nous sur un système où on retrouve notre autonomie alimentaire de nos élevages, où on produit peut-être du maïs, moi c'est pas mon modèle, parce que je préfère nourrir des herbivores avec de l'herbe, voilà une révolution intéressante, et plutôt que de les nourrir avec du maïs, et qui nécessite qu'on importe massivement du soja. Donc ça c'est un premier sujet. Après, sur les aides, effectivement, ça a été bien expliqué, la PAC a fait que les aides au maïs étaient très très favorables. Les éleveurs qui ont refusé de retourner les prairies pour installer du maïs dans ces zones-là, on stockait de l'eau, on l'épurait, parce que les zones humides ont cette faculté de stocker et d'épurer l'eau. On a drainé ces zones-là pour évacuer l'eau très tôt, pour y rentrer des tracteurs qui viennent semer du maïs et qui, au mois de juillet, août et septembre, reviennent irriguer le maïs. C'est la politique des shaddocks. C'est quand même un peu délirant, et je pense que là, on marche sur la tête. En revanche, un élevage qui s'appuie sur un système herbager propose des solutions de gestion de zones qui d'ailleurs séquestrent des gaz à effet de serre. Les prairies sont des formidables zones de séquestration des gaz à effet de serre, et elles le sont d'autant plus que quand elles sont entretenues par des activités d'élevage. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Et l'élevage basé sur une alimentation basée sur le maïs et le soja produit de toute façon des produits de qualité douteuse. On a parlé tout à l'heure d'obésité, d'inflammation en général, tout simplement. Alors je ne vais pas être technique, mais les oméga 3 et oméga 6 sont inversés. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires, les oméga 6 sont des anti-inflammatoires.
On va pas se lancer.
Quand on nourrit des herbivores avec de l'herbe, eh bien on a plus d'oméga 3 et donc on a une alimentation qui est nettement moins inflammatoire que quand on choisit de nourrir des herbivores avec du maïs et du soja.
Benoît Biteau, une précision d'Arnaud Goffier de WWF France.
Non, effectivement, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Renourrir les animaux à l'herbe, ça peut paraître banal, mais ça peut paraître du bon sens paysan, mais finalement, une grande majorité des animaux sont encore nourris à l'herbe en France, mais c'est pas le système qui se développe. On est sur des systèmes beaucoup plus industrialisés qui sont en développement au détriment de l'élevage traditionnel à l'herbe. Et ce que disait Benoît Biteau, c'est que c'est un élevage traditionnel qui a beaucoup d'atouts environnementaux, à la fois en termes de stockage de carbone, mais aussi pour le stockage de l'eau, dans l'entretien des zones humides qui sont des formidables réservoirs pour recharger les nappes phréatiques notamment. Et ces agriculteurs ne sont que très peu aidés pour ces services qu'ils rendent à l'environnement et à la société finalement. Donc il faut pouvoir les aider. Et dernier point sur
l'eau, rapidement,
on importe aussi énormément d'eau. Via toutes ces importations de soja dont Benoît Biteau parlait, on a aussi énormément d'eau virtuellement qu'on importe de pays tiers et qui peut mettre à mal les ressources aussi dans les pays tiers.
Plan sécheresse, comment améliorer notre gestion de l'eau? 01 45 24 7000, c'est le numéro du téléphone sonne. Et on retrouve Cachou, bonsoir. Quelle est votre question?
Bonsoir, je voulais savoir si les Français étaient bien conscients qu'ils utilisent de l'eau potable pour faire caca. Pour évacuer leur caca, on utilise 10 à 15 litres à chaque fois qu'on tire la chasse. Et déjà, si on passait à un système de toilettes sèches qu'on pourrait très bien adapter dans des immeubles pour récupérer les éjections et en faire du méthane et chauffer l'immeuble, par exemple, on ferait certainement des progrès en matière de consommation d'eau et d'économie.
Alors, Marie-Lise Massé du Centre d'information sur l'eau, est-ce qu'on s'interroge sur l'utilisation d'eau potable pour l'évacuation des déchets humains?
Oui, on s'interroge parce qu'effectivement, la logique serait qu'on n'utilise pas de l'eau qui a été traitée pour être potable. Le problème, c'est qu'il y a encore une réticence quand même des pouvoirs publics. Hein. On est en principe de précaution, donc pour le moment, on considère que pour les toilettes, il faut continuer à utiliser en majorité de l'eau potable. Mais c'est vrai qu'on économiserait, parce qu'il faut savoir que chaque habitant utilise chaque jour 145 litres d'eau. 74 litres, c'est pour se laver et laver son linge, mais il y a quand même 29 litres qui passent dans les toilettes.
Là, donc, on peut tous agir quand Nicolas Hulot dit qu'il faut engager les citoyens pour faire des économies d'eau. Ça commence par le bain, la douche, le brossage de dents.
Pour revenir sur un sujet qui n'est pas très loin de l'agriculture, tout à l'heure, il y a une auditrice qui vous a dit qu'on peut changer nos façons de s'alimenter. Et moi, je vais vous donner deux ou trois exemples qui peuvent être anecdotiques, mais qui peuvent avoir un vrai pouvoir. La première chose, c'est, vous savez, on jette beaucoup d'aliments. Eh bien, quand vous jetez vos aliments à la poubelle, vous jetez l'eau. Vous pouvez choisir, donc il faut faire attention. Vous pouvez aussi faire des choix dans votre alimentation. Je vous donne deux ou trois exemples. Vous savez que pour tout produit qui est fait, alimentaire ou non, vous utilisez de l'eau. Quand vous mangez un hamburger, on a dû utiliser 2400 litres d'eau pour en faire un. Si vous aviez choisi une pizza, par exemple, eh bien, on n'aurait utilisé que 1200 litres. Si vous utilisez 1 kg de sucre de canne, eh bien, vous avez utilisé 1700 litres d'eau. Si vous avez du sucre de betterave, 500. Ce que je vais expliquer, c'est que si un consommateur savait tout ça, je pense qu'il pourrait agir sur sa consommation tous les jours. Et l'air de rien,
là-dessus.
C'est un peu un pas déjà.
Un mail de Fabienne sur franceinter.fr. Je souhaiterais savoir s'il y a des études sur l'importance de la perte d'eau potable en raison des fuites sur les réseaux d'alimentation au sein des villes notamment.
Bien sûr.
On l'a entendu dans le journal avec Sandrine Dauphin, 20% d'eau perdue.
Alors, en règle générale, on dit 20%. Le Grenelle de l'environnement demande que petit à petit, on soit à 15%. Ce que je voudrais dire, c'est que cette eau n'est pas perdue. C'est vrai qu'elle est captée, on a dépensé de l'argent pour la capter, on a dépensé de l'argent pour la traiter, mais elle n'est pas perdue parce qu'elle retournera dans le milieu naturel et sera utilisée. On pourrait reparler d'ailleurs pour illustrer du problème de Rome actuellement. Eux ont actuellement 45% de performance de rendement et la métropole de Rome fait à peu près 4 millions d'habitants. Et on utilise actuellement par jour 1 milliard d'eux de mètres cubes par jour pour alimenter cette population. Dans la région parisienne, vous avez exactement la même population, avec un rendement de 83%, donc une performance de 83%. Mmh. Résultat, vous n'utilisez que 650 000 mètres cubes par jour.
Ça veut dire
voyez,
quoi que le réseau, il suffit d'entretenir le réseau?
Oui, mais il suffit, ça c'est ce qu'on dit. Mais ce qu'il faut savoir pour entretenir le réseau, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. Mmh. Nous arrivons à un moment compliqué où on s'aperçoit que les canalisations sont le plus souvent en mauvais état et qu'elles fuient. Mais il va falloir trouver de l'argent pour faire ces réparations.
Ces réparations, notamment les difficultés de la ville de Rome en Italie. Bonsoir Patrice, bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir et merci pour vos émissions.
Nous vous écoutons.
Voilà, j'ai un constat à vous faire partager. J'ai pour voisin un nouvel immeuble qui vient d'être construit et habité. Plutôt que de le construire, ses fondations, son parking souterrain avec un bac étanche, par souci d'économie vraisemblablement, ce bâtiment a été construit sur pilotis. Ce bâtiment est construit sur une nappe phréatique. Donc pour que le parking ne soit pas inondé, il est pompé de l'eau continuellement tous les jours, rejeté dans le caniveau à ciel ouvert de notre rue des Mazières à Angers. Devant ce gâchis, je suis allé à la mairie d'Angers pour m'en inquiéter auprès des services d'urbanisme qui se sont réfugiés derrière leurs compétences soi-disant limitées au hors-sol. Je suis ensuite allé à la préfecture où j'ai déposé un dossier avec toutes les informations. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai donc renvoyé une deuxième fois mon...
Déplacez-vous juste un tout petit peu pour que la qualité du réseau revienne et que l'on vous entende parfaitement bien sur France Inter.
Oui, vous m'entendez là ?
Pas très bien, mais allez-y.
Oui, et donc j'ai envoyé un courrier recommandé à la préfecture.
Il va falloir faire vite parce qu'on vous entend vraiment très très mal.
Alors,
désolé.
Non, j'essaie de trouver une place correspondante.
On va voir si on arrive à récupérer cette ligne, Patrice, mais peut-être déjà une première réaction de Florence Abetz, qui est hydrométéologue au CNRS.
Ah bien, ce que je peux dire, c'est
que... Vous avez déjà vu ça ?
Non, effectivement, c'est très étonnant. Effectivement, on peut construire sur pilotis dans des zones où il y a des risques d'inondation. Ça, c'est plutôt bon sens, parce que c'est difficile d'interdire partout la construction. Par contre, devoir prélever comme ça par pompage... Go quotidien et la relâcher comme ça, c'est très rare. Et ce que je peux dire aussi, surtout, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience très importante de tous les professionnels urbains sur l'eau en ville. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment des progrès très importants sur la gestion de l'eau, de pluie et des risques d'inondation au niveau des zones urbaines. Et également, lors des canicules, on sait que la ressource en eau, l'accès des villes à l'eau, est un point très important pour le rafraîchissement lors des canicules. Et c'est vraiment des choses qui sont bien prises en compte actuellement, avec des développements qui se font, je pense, relativement bien dans beaucoup de villes. En tout
Florence Abetz, quand vous nous avez dit en commençant cette émission que on est dans un épisode de sécheresse et que ça ne va pas s'améliorer et s'arranger avec les années, est-ce que l'on doit redouter, nous consommateurs, des coupures d'eau, comme ça a été envisagé? On a parlé de Rome, mais ça a été envisagé là cet été.
Ah bah des coupures d'eau, si vous me demandez ça d'ici 2-3 ans, je pense que non, mais si vous me demandez ça en 2100, là je pense qu'on n'en pourra plus rien garantir. Effectivement, là il faut se rendre compte que les conditions qu'on pourra avoir dans le futur seront très contraignantes. Donc il faut dans tous les cas toujours contribuer à atténuer le changement climatique pour réduire l'impact sur l'hydrologie, même en France. C'est ça que... ça paraît toujours un petit peu global, on parle changement climatique, on ne sait pas de quoi on parle, mais sur l'eau, en France, l'impact du changement climatique est très fort et la capacité
justement
d'atténuer le scénario à 2 degrés, par exemple, plutôt que le scénario tendanciel, c'est vraiment quelque chose d'important en termes de ressources en eau en France.
Je crois que François-Marie, au 01 45 24 7000, veut intervenir sur ce sujet. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, je suis François-Marie Pellerin, adhérent à France Nature Environnement. J'habite entre la Vendée et les Deux-Sèvres, justement, où il y a des arrêtés sécheresses tous les ans. Et même en Deux-Sèvres, il y a une des arrêtés sécheresses cet hiver. Voilà, c'est une question que je voulais poser à Florence Abbé. Justement, c'est le sujet dont elle vient de parler. Est-ce qu'elle peut nous dresser un rapide portrait du changement climatique et de son influence sur la ressource en eau, d'une part? Et puis d'autre part, parce que je sais qu'elle a participé à des expertises collectives, que pensait des solutions que l'on peut avoir face à ces problèmes, en particulier des solutions qu'on appelle sans regret, c'est-à-dire ce qu'on ne regrette pas par rapport aux incertitudes qu'on peut avoir ou à l'évolution, je pense par exemple au stockage dont elle a un peu parlé aussi.
Alors justement, commençons par cela et expliquez-nous.
Les solutions sans regret, vous voulez dire? Ouais. Oui, alors tout à fait. Ce qui est clair, c'est qu'on va aller vers, quelle que soit l'évolution du climat, c'est-à-dire même si on arrive à atténuer fortement nos émissions de gaz à effet de serre, on va quand même aller vers un petit peu plus de sécheresse. Par contre, si on n'atténue pas, on va aller vers beaucoup plus. Donc dans tous les cas, il faut absolument s'adapter et continuer à atténuer. Parmi les méthodes d'adaptation, eh bien, il est clair qu'il faut adapter notre consommation en eau, d'eau, à la ressource actuelle, enfin, qui sera disponible. Donc, ne pas avoir des usages immodérés et essayer d'améliorer les stockages d'eau naturelle, c'est-à-dire typiquement les stockages d'eau dans le sol. Hein, c'est ce qui a été dit. Typiquement, les prairies sont des moyens des types d'occupation des sols qui permettent de stocker beaucoup d'eau dans le sol, simplement parce qu'on a laissé le sol s'enrichir de matière organique et du coup, il est capable de comporter plus d'eau. Il se comporte plus comme une éponge, alors que des sols dans lesquels on va passer très souvent avec un tracteur vont se tasser et puis vont contenir moins d'eau, donc typiquement ça peut faire partie des choses. Et puis favoriser la recharge naturelle de nos nappes. Hein. Les nappes, c'est quand même des énormes réservoirs d'eau dans lesquels on peut aller pomper normalement toute l'année s'il n'y a pas de restrictions. Et pour ça, ben, il faut avoir des zones où l'eau est capable de s'accumuler pour justement être assez en nombre pour pouvoir s'infiltrer directement dans la nappe. Donc ça,
Florence Abetz, le terme de zone humide, qui fait beaucoup polémique, puisque je ne vais pas relancer la polémique. N'appelez pas pour parler de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais sur ces zones humides, justement, on les défend à juste titre. Là, surtout quand on parle de sécheresse, elles ont un véritable rôle.
Elles ont un véritable rôle. Hein. Il y a des gens dans la région Rhône-Méditerranée-Corse qui m'ont dit. Je me suis rendu compte pendant la sécheresse le rôle des zones humides. Là où il y en avait, ce sont les seuls endroits où les cours d'eau n'étaient pas à sec. Donc finalement, voilà, on se rend compte que les gens de terrain prennent conscience de ça lors des années sécheresses. Effectivement, les zones humides sont des zones qui sont capables de stocker de l'eau, de la redistribuer vers la nappe et de continuer à alimenter les cours d'eau l'été.
Marie-Lise Massé du Centre d'information sur l'eau. Il en est question dans le plan de Nicolas Hulot des zones humides?
Zones humides, moi j'ai pas vu de choses particulières, mais c'est vrai que les zones humides, on en parle depuis tellement, tellement longtemps, il faut savoir qu'elles sont très, très fragilisées. Hein. 47% sont en très mauvais état. Or, c'est vraiment un réservoir de biodiversité, de justement purifier l'eau, etc. Enfin, elle a beaucoup de rôles à faire. Je voudrais revenir aussi sur la perspective. Hein. Il faut pas oublier que non seulement on va manquer d'eau à certains endroits, mais à d'autres endroits, on aura des inondations également.
Hein. Au même endroit,
et
d'ailleurs.
Et puis, sans doute, peut-être au même endroit. Et puis aussi, qu'il va falloir tenir compte des populations qui sont en train d'avancer vers les littoraux. On sait déjà que en Midi-Pyrénées, là où c'est déjà tendu hein, à cause des usages, on va avoir des gens qui vont arriver en plus, littoral Aquitaine, Midi-Pyrénées, et donc on va avoir un problème aussi de partage d'usage à mettre en place.
Olivier, au 01 45 24 7000, bonsoir et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir, merci de m'avoir pris. Alors j'ai pris l'émission en cours, donc veuillez m'excuser si j'ai pas tout saisi, mais en tout cas l'intervention précédente abonde la mienne. Donc voilà, je suis docteur en sciences de l'eau, je travaille aujourd'hui comme chargé de mission au sein de l'association Terre Humanisme, créée par Pierre Rabhi. Et voilà, donc nous l'eau c'est une préoccupation majeure, et notamment on a trois niveaux d'intervention. Notamment le premier c'est d'augmenter effectivement la matière humide qu'il y a dans les sols et de tout faire pour que les sols retiennent l'eau et favorise son infiltration dans le sous-sol. Alors tout ça dans l'idée que l'eau, même à 500 mm par an, ce qui est à peu près la pluviométrie des zones les plus arides dans le sud de la France, ça représente malgré tout, à l'échelle de 1 hectare, environ 5000 m3 qui tombent par an, soit deux piscines olympiques, donc ce qui est considérable. Et ensuite, c'est comment on gère, de quelle manière on va faire pour cette eau. Soit on est mauvais, on va dire entre guillemets, et on laisse filer cette eau, ce qui est le cas d'une grande partie de l'agriculture conventionnelle actuelle, soit on fait tout pour retenir cette eau, notamment déjà en commençant par augmenter la matière organique des sols, végétaliser la surface des sols, et favoriser cette eau va donc remplir progressivement les nappes, sont restituées en amont. Cela impose une approche globale à l'échelle bassin versant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est bon, comment on peut stocker de l'eau sur des micro-barrages, voilà, des constructions en fonction des besoins locaux, comment on la stocke. Et le troisième point, c'est comment on économise l'eau. Alors, je fais très simple dans tous ces trois points-là, mais comment on économise l'eau, notamment, par exemple, en faisant de la sélection paysanne de semences adaptées aux conditions locales des territoires pour avoir des plantes qui sont parfaitement adaptées au stress hydrique. Voilà.
Donc vous avez fait les questions et vous avez apporté les réponses. Merci beaucoup, Olivier, donc docteur en sciences de l'eau. Il y a Sarah sur Twitter qui nous dit « Plutôt que de parler de faute des agriculteurs, peut-on parler de responsabilité des consommateurs ?» La parole à Benoît Biteau, paysan agronome.
Oui, ben justement, moi je voulais rebondir parce que sur ma ferme, j'ai fait évaluer mon impact sur le changement climatique et je suis sur un modèle, alors que je suis éleveur, qui séquestre plus de gaz à effet de serre qu'il n'en émet. Donc c'est possible en agriculture de réduire ces gaz à effet de serre qui représentent quand même 30% des émissions de gaz à effet de serre des activités humaines, mais surtout on peut être dans un modèle agricole qui séquestre plus de gaz de carbone et qui participe à l'atténuation. Et les solutions, elles sont simples, et ça a été évoqué par le précédent auditeur. Moi, je suis en agroforesterie, en semi-direct sous couvert vivant, donc je travaille plus du tout le sol. Je suis en mélange d'espèces pour maintenir un niveau de productivité élevé, ce qui fait que quand je récolte avec ma moissonneuse batteuse, sans être technique, il y a au moins deux graines dans la trémie qui sont ensuite séparées et valorisées, du seigle à de la lentille, par exemple. Et du coup, on est sur des niveaux de productivité élevés, sur des sols qui sont en vie, qui peuvent faire circuler l'eau vers le bas quand elle est en excès et donc vers les nappes phréatiques, et avec des arbres en agroforesterie qui jouent le rôle de pompe en période estivale, qui alimentent en eau et en minéraux les cultures qui sont intercalées entre ces arbres. Et donc c'est possible, j'en suis un exemple vivant. Le seul regret que j'ai, c'est que moi j'ai repris une structure qui était en monoculture de maïs depuis 35 ans et qui mobilisait 300 000 mètres cubes d'eau chaque année. J'ai arrêté tout ça et j'ai vu mes aides publiques de la PAC se réduire. C'est-à-dire que même si je suis certifié bio, et on a tendance à dire que les bio touchent beaucoup plus d'aides que les autres, et malheureusement les orientations du gouvernement vont pas dans ce sens-là non plus, mais en réalité, moi j'ai fait évaluer ça par...
vous auriez besoin de plus d'aides.
Et moi, je touche 10% d'aide de moins que si j'avais continué à faire du maïs irrigué en grand.
Alors donc, il y a Didier, pardon Benoît Biteau, il y a Didier Parmel qui nous écoute, merci, et qui dit « Il semble que des solutions de bon sens relativement faciles à mettre en œuvre existent », c'est ce qui ressort ce soir, et on vient de l'entendre avec Benoît Biteau, mais qu'attend-on? Quels sont les lobbies anti-eau raisonnée, peut-être Arnaud Goffier de WWF.
C'est des choix politiques derrière qu'on a. C'est effectivement cette question de l'orientation des aides. Il y a des lobbies, il y a des outils industriels aussi qui utilisent le maïs. On parle beaucoup du maïs, de la monoculture de maïs. C'est quand même derrière. Il y a beaucoup d'utilisation industrielle. Il y a des lobbies aussi pour favoriser l'export, l'exportation de ces céréales. Soit dit en passant, quand on ne travaille pas sur la valeur ajoutée des produits et qu'on exporte des produits bruts, on est plus sur une économie agricole de pays du tiers-monde, de pays en développement, que de pays développés. Certains économistes vont jusque-là. Et ensuite, sur les modèles agricoles, ce dont les deux précédents auditeurs ont parlé, c'est l'avenir de l'agriculture. L'agriculture, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas perdre ça de vue, est faite pour s'adapter à son territoire, s'adapter aux conditions climatiques et du sol, et ne pas adapter les territoires à la production agricole qu'on veut y faire.
Voilà, on aura terminé sur une note d'avenir. Merci Arnaud Goffier, WWF, Marie-Lie Massé et Florence Abed. Cette émission, est à retrouver sur franceinter.fr.